tous en mode bonne conduite. Soyez prudents sur la route. Les accidents de la route tuent 1,35 million de personnes dans le monde chaque année, soit un mort toutes les 21 secondes. Du 1er octobre au 1er novembre, retrouvez des interviews, reportages, messages d'information et de prévention sur InfoRC. Tapez www.inforc.fr pour retrouver la web radio. 88.6 et 97.2 pour retrouver les fréquences d'InfoRC. Tous en mode bonne conduite, une action soutenue par Point S, la carrosserie Vernet et la préfecture de l'Ardèche.
Bonjour et merci d'écouter InfoRC. Nous sommes ici aujourd'hui pour discuter de la sécurité routière. Et le thème de l'émission d'aujourd'hui sont les usagers vulnérables. Nous avons l'honneur d'avoir Maxime Chasson, urgentiste et motard, Walter Lévesque, bénévole à la Fédération des motards en colère et bénévole à la Mutuelle des motards, et Christophe Grandclerc, coordinateur de la sécurité routière à la DDT de l'Ardèche. Tout d'abord, bonjour à vous trois et merci d'être présents pour cette interview.
Bonjour à tous.
Monsieur Grandclerc, pouvez-vous nous expliquer en quoi consiste le rôle de coordinateur de la sécurité routière au sein de la DDT de l'Ardèche ?
Alors, au sein de la DDT, donc, qui est la direction départementale des territoires, la coordination sécurité routière relaye les messages de la délégation à la sécurité routière au niveau local et décline les mesures portées par l'État sous l'autorité de la préfecture. Elle favorise et participe à la mise en place d'actions qui sont menées par les différents partenaires et acteurs, qu'ils soient publics, associatifs ou privés, et engagés dans la lutte contre l'insécurité routière. Donc ce sont des associations, des collectivités territoriales, l'éducation nationale, les forces de la sécurité intérieure, donc gendarmerie, police nationale, police municipale. Elle accorde également des financements sur des projets qui sont déposés dans le cadre du plan départemental d'action et de sécurité routière, le PDASR. Et en parallèle, il y a un suivi d'évolution de l'accidentalité sur le département qui est effectué par l'Observatoire départemental. Donc c'est tout ce qui concerne les chiffres, les statistiques, les études et analyses.
D'accord. Mais pouvez-vous nous expliquer qu'est-ce qu'on entend par usager vulnérable ?
Alors un usager vulnérable, c'est un usager qui circule sur une voie publique et qui ne bénéficie que de peu, voire pas, de protection en cas de collision. Contrairement à un véhicule carrossé qui est conçu pour absorber et amortir une partie du choc. Donc on y intègre les piétons, les cyclistes, les conducteurs d'engins et déplacements personnels, qu'ils soient motorisés ou non, donc notamment les trottinettes et trottinettes électriques, hein, ainsi que les deux roues motorisées. Si on y intègre le critère de l'âge, on peut également dire que ça s'adresse aux personnes âgées, enfin que ce sont les personnes âgées et les enfants.
Quels sont les principaux défis en matière de sécurité routière auxquels l'Ardèche est confrontée et comment la DDT y travaille-t-elle pour les relever ?
Alors simplement, les actions menées par la DDT s'inscrivent dans une démarche qui est partenariale, où interviennent différents services de l'État, que ce soit l'éducation routière, l'éducation nationale, la justice, le ministère de l'Intérieur avec les forces de l'ordre, la santé, également les collectivités territoriales, hein, le conseil départemental, le conseil régional, les communes, et le monde du travail avec le risque routier en entreprise. Il faut informer et former dès le plus jeune âge, puis tout au long de la vie, c'est le principe du continuum éducatif. Les gestionnaires de voiries, de leur côté, travaillent à améliorer et sécuriser le réseau routier.
Pouvez-vous nous partager des données récentes sur les accidents de la route dans l'Ardèche et les tendances que vous avez observées concernant plus spécifiquement les usagers vulnérables ?
Les usagers vulnérables, en 2022, c'est 60% de la mortalité routière en Ardèche. Et malheureusement, on est sur la même tendance pour 2023. Les deux roues motorisées, donc les motos et les cyclomoteurs, représentent selon les années entre 30 et 40% en moyenne des tués chaque année. On enregistre un développement des EDPM, donc les engins de déplacement personnel motorisés, donc dont notamment les trottinettes électriques, comme moyen de déplacement avec une augmentation des accidents en 2022 et nous avons enregistré un décès en 2021. Ensuite, on a les cyclistes, les piétons.
D'accord. Y a-t-il des zones spécifiques de l'Ardèche qui sont particulièrement concernées ?
Dans cette question, il faut voir surtout de quel type d'usager on parle. Si on parle des deux roues motorisées, notamment des motards, on va parler du plateau ardéchois, du sud Ardèche, des vallées d'accès sur la montagne, hein, la vallée de l'Erieux, la vallée du Doubs. Après, selon les catégories d'usagers, on va surtout différencier tout ce qui concerne le hors agglomération et le en agglomération. 70 à 80% des accidents mortels le sont hors agglomération. C'est logique puisque là, les vitesses pratiquées sont plus élevées. Hein. Si on prend par exemple l'accidentalité piétonne, on va la retrouver surtout en agglomération.
Parlez-nous des nouveaux modes de déplacement et les principaux problèmes que pose leur développement sur les routes.
Alors, on a deux problèmes principaux, hein, que sont probablement la méconnaissance de la règle, mais également son non-respect. Pour information, on a un changement de réglementation qui est intervenu au 1er septembre, où l'âge légal pour pouvoir conduire un engin de déplacement personnel motorisé est passé à 14 ans. On a également une augmentation des sanctions prévues, hein, pour rappeler, donc il est interdit de circuler à deux personnes sur un tel engin. Et bien entendu, on est également sanctionné si on circule sur des voies non autorisées. On a une campagne de prévention qui a été menée par les forces de l'ordre.
Quels sont les projets d'aménagement routier de la DDT pour améliorer la sécurité routière pour ses usagers?
Alors, à proprement parler, la direction départementale des territoires n'a pas véritablement compétence en matière d'aménagement routier. Ce sont essentiellement les gestionnaires de voiries qui ont cette compétence. Donc, pour l'État, ce sont qui a à charge les routes nationales, ce sont les DIR, hein, Direction interdépartementale des routes. Pour tout ce qui est route départementale, eh bien, ce sera le service des routes du conseil départemental. Et pour tout ce qui est commune et le réseau des communes, eh bien, ce sont les voies communales. La DDT intervient par contre pour la délivrance d'avis sur certains aménagements sur les RGC, donc ce sont les routes à grande circulation.
Concernant ces usagers, pouvez-vous nous donner des exemples de mesures de prévention et de sensibilisation mises en place pour réduire le nombre d'accidents de la route dans la région?
Alors, je reviens sur la nécessité d'une action conjointe des différents services et partenaires pour mener une politique complète en matière de sécurité routière avec différents volets. Donc, le premier concerne la prévention et l'information. On a fait cette année, concernant les EDPM, une campagne avec des messages sur des sacs à pain qui étaient distribués par les boulangeries. Ça, c'était au printemps. On a l'escadron départemental de sécurité routière et son amicale qui organisent des journées trajectoires à destination des motards. On tient également des stands de mobilité douce sur certaines grosses manifestations, comme la foire de Tournon, l'arrivée du tour féminin en Ardèche, avec mise à disposition d'accessoires de sécurité, hein, donc des catadioptres, des dispositifs rétro-réfléchissants. On a également des campagnes de distribution d'autotests, donc les éthylotests et des réglettes qui sont effectuées par les forces de l'ordre, hein, donc que ce soit la gendarmerie nationale ou la police nationale, notamment en début de période estivale, et puis ça sera également remis en route au moment des fêtes de fin d'année. On passe également des messages radio tout au long de l'été, hein, en juillet et août, et puis on a des interventions sur le risque routier en entreprise. Donc ça, c'était pour le volet prévention-information. Après, il y a tout le volet, bien sûr, qui est très très important, qui concerne la formation. Donc c'est tout ce qui est action en milieu scolaire, hein, qui peuvent être menées notamment par les partenaires. Je ne les citerai pas tous, hein, j'y citerai pour les principales les pistes apprentissage vélo de la prévention routière, prévention Maïf, l'USEP pour les vélos. On a des actions qui sont menées au niveau scolaire également, par exemple au centre socio-culturel du Pouzin. Et à savoir également que les forces de la sécurité intérieure, donc gendarmerie, police nationale, policiers municipaux, participent également à l'animation d'ateliers tout au long de l'année. Et puis le dernier volet, il relève du contrôle et de la sanction, et ça c'est le rôle des forces de l'ordre.
Quels conseils donneriez-vous aux conducteurs, aux cyclistes et aux piétons pour contribuer à la sécurité de l'Ardèche ?
Pour tous, déjà, c'est le respect mutuel et le partage de la route. Après, plus particulièrement pour les usagers vulnérables, c'est le rappel de l'importance d'être bien équipé en deux roues motorisées, hein, que ce soit en cyclomoteur ou sur une moto. Et puis, pour tout ce qui peut être piéton, cycliste, l'importance également de bien se rendre visible. On voit encore beaucoup trop de vélos, par exemple, de nuit, qui circulent sans éclairage. Et c'est une grosse prise de risque.
Monsieur Chazon, en tant qu'urgentiste, quelles sont les principales blessures ou situations médicales auxquelles vous êtes confronté suite à des accidents de la route ?
Ben, ça va être de deux types en fonction de s'il s'agit d'un véhicule carrossé ou si on s'agit plutôt d'un véhicule à deux roues ou les nouveaux modes de transport. Pour les véhicules carrossés, souvent les vitesses sont plus élevées, mais nous avons une protection extérieure qui font que les blessures sont plutôt internes. avec des hémorragies, des choses sur les organes à l'intérieur du corps, alors que sur les cyclistes, les motos, il va y avoir souvent une projection de la personne dans le milieu extérieur, et donc là on va se retrouver avec des blessures un peu plus externes, notamment des traumatismes crâniens et des traumatismes de membres.
Pouvez-vous partager des exemples de cas où des mesures de sécurité routière auraient pu éviter ou atténuer des blessures graves ?
Oui, bien sûr, malheureusement, on en a encore de nombreuses. Celles que j'ai en tête principalement, ça va être le port de casque pour les vélos, notamment les vélos électriques, ce qui est VTT électrique, qui devrait être beaucoup favorisé. Et puis, pareil, pour les piétons, d'être visible, ou surtout les nouveaux modes de transport, d'avoir un gilet ou des choses réfléchissantes pour être vu par les autres usagers.
Quel impact a eu le développement des nouveaux modes de déplacement au niveau des urgences ?
Alors si la question est ciblée sur les nouveaux modes, à Aubenas on est peu impacté parce qu'il y en a peu, entre guillemets, mais globalement la dernière étude montrait qu'il va s'agir de traumatismes crâniens dans la majorité des cas, puisqu'on va se retrouver avec des victimes qui sont à des vitesses un peu plus élevées, sans casque, et donc qui vont présenter des impacts presque plus important que les motards, d'après les dernières études, qui eux vont plus vite, mais ont l'obligation de porter un casque.
Quelles sont les principales différences que vous constatez entre les accidents de la route impliquant uniquement des voitures et ceux impliquant des piétons, cyclistes, motards ?
Ça va être les blessures. Voilà, les voitures ont énormément progressé ces dernières années avec tous les airbags, la ceinture et les matériaux qui font que elle nous protège vraiment lors d'un impact, où c'est elle qui va absorber la cinétique en se froissant. Et maintenant, on arrive à avoir des personnes qu'on a besoin de beaucoup désincarcérer parce que la voiture est très abîmée autour, mais qui, eux, au final, ne montrent peu de lésions internes ou externes. Et par contre, pour les autres, on a toujours les mêmes constats avec malheureusement des blessures qui sont souvent bien plus importantes, voire fatales.
En tant qu'urgentiste, quel message souhaitez-vous transmettre aux usagers vulnérables concernant la sécurité routière et la prévention des accidents ?
Moi, je conseillerais vraiment de ne pas attendre que le législateur rende les choses obligatoires pour se protéger. Le casque en vélo, c'est pas obligatoire, mais il faut le mettre. En trottinette, il faudra que le casque y soit mis. Je ne sais pas encore de quel type il faudrait qu'il soit. Est-ce qu'il faudrait qu'il soit intégral comme en moto ou comme un vélo ? Bien sûr, les gants devraient être obligatoires, le short devrait être interdit. Alors bien sûr, c'est toutes des privations de liberté, mais quand on voit un enfant de 14 ans ou une jeune fille de 14 ans avec la moitié d'une jambe brûlée ou écorchée, avec des cicatrices qui vont ressembler quand même à des choses vraiment pas très jolies plus tard, on est triste de ne pas avoir pu lui conseiller de ne pas faire de vélo en jupe ou de scooter en débardeur.
Concernant ces usagers, quels sont les dispositifs de sécurité sur la route ou les avancées médicales qui ont eu le plus grand impact sur la réduction des blessures graves dans les accidents de la route ?
Au niveau médical, on a vachement progressé sur la classification et la stratification des blessures. Donc maintenant, il y a plein de patients qui ne passent plus par les urgences d'Aubenas, par exemple, en fonction de leur gravité. Ils sont directement héliportés ou transférés dans des gros centres parce qu'on a différents types de blessures et donc types de traitements qu'on ne fait pas. On n'a pas beaucoup plus de blessures ou d'accidents sur ces voies-là puisqu'elles sont préservées. Ça va plus être à l'intersection de ces voies-là avec les autres qu'il va y avoir des soucis. Donc je pense, j'imagine un peu les problématiques de la ville sur les trottinettes électriques qui pour l'instant n'ont pas vraiment de lieu. Sur le trottoir, ça va beaucoup trop vite. Sur les voies vertes, ok. Et sur les voies routières, ça va, c'est pas adapté. Donc je pense qu'il faut aussi que chaque usager ait une partie un peu définie de la route pour la partager de la meilleure façon.
Quels sont les conseils que vous donneriez aux conducteurs de ces engins pour minimiser les risques d'accidents de la route en se basant sur ce que vous avez vu en tant qu'urgentiste ?
Ça rejoint un peu la réponse qui a été faite précédemment. Bien sûr qu'il faut éviter toutes les conduites sous stupéfiants ou en état d'ivresse. Il faut essayer de réfléchir aux autres, c'est-à-dire que c'est un automatisme qu'on a un peu en tant que motard, c'est-à-dire que malheureusement le danger vient des autres, parce qu'on peut surprendre de par la vitesse, de par la plus petite taille, et ça c'est valable pour une trottinette électrique, pour un overboard, pour un vélo, qui déboulerait sur la voie sans que le véhicule l'ait vu. Et par contre, après l'impact, bah, c'est le plus petit qui ramasse le plus souvent.
Merci, monsieur Chasson. Monsieur l'évêque, pouvez-vous nous expliquer le rôle de la Fédération des motards en matière de sécurité routière et de sensibilisation?
Alors, la Fédération française des motards en colère existe depuis 40 ans, enfin un peu plus de 40 ans maintenant. Le but de cette association, ça a été de développer la pratique du deux-roues motorisé et aussi d'apporter et d'essayer d'apporter une meilleure pratique. Concernant la FFMC, on est beaucoup connu pour notre partie revendicative, mais on ne fait pas que ça, on fait énormément d'actions en matière de sécurité. Alors par exemple, ici sur la région, on intervient dans les collèges, dans le cadre d'une association, enfin qui fait partie de la FFMC, d'une antenne qui s'appelle l'éducation routière jeunesse. Donc on intervient dans les collèges avec un programme, l'importance de l'équipement, les risques réels, les risques physiques, la physiologie du corps humain, hein, par exemple la tâche aveugle, les temps de réaction, etc. Une partie aussi sur l'addictologie, hein, tout ce qui est alcool, stupéfiant. Ensuite, concernant les motards en particulier, on organise deux fois par an une journée sur circuit de vitesse. C'est-à-dire que le principe, c'est de dire, voilà, vous avez des machines performantes, vous voulez les essayer, ben, venez sur circuit. Donc le principe est simple, hein, on loue les circuits et puis on organise des séances de roulage avec des marshals, des gens confirmés qui encadrent. Un circuit de vitesse, c'est prévu pour faire de la vitesse. La route, c'est pas prévu pour faire de la vitesse. Moi, le discours que j'ai dans les collèges auprès des jeunes, hein, des jeunes et des fois des moins jeunes, puisqu'on intervient aussi des fois dans des classes beaucoup plus grandes, BTS et tout, la route n'est pas un circuit. La moto, pour parler de la moto, c'est dangereux. Alors des fois, j'ai même des collègues motards qui disent « ouais, c'est un discours ». Si, c'est dangereux. On n'a pas de carrosserie, tout simplement. Donc, ben voilà, on est faillible. Voilà, l'histoire du partage de la route dont parlaient les deux intervenants précédents, ben, le partage de la route, moi j'y suis aussi, c'est un message que je délivre dans les collèges.
Mais quels sont les défis spécifiques auxquels les motards sont confrontés sur la route en termes de sécurité?
Alors, l'état des routes s'est dégradé. En France, c'est une réalité, c'est pas moi qui le dis, il y a eu des études qui ont été faites. Donc voilà. Alors après, les facteurs de dégradation des routes, c'est aussi le problème du tout routier. Il y a de plus en plus de camions sur les routes. Bon, c'est pas anodin sur l'état des routes, hein, sur la déformation des routes. Vous voyez, par exemple, sur certains ronds-points, ben, vous avez, nous on appelle ça des vagues, vous voyez, alors vous avez le goudron qui est déformé. Bon, en plus, les conditions climatiques actuelles font qu'il y a de plus en plus de chaleur, donc ben, ça, les routes se déforment, les camions passent, et puis, ben, ça escalade les routes. Alors quand vous avez un trou, bah, l'eau se met dedans, en hiver ça gèle, et bah, ça bousille les routes. Mais nous, en motard, on constate ça. Voilà. Les spécificités, bah, on a l'état des routes, on a le comportement général. Alors le comportement, nous, on n'a pas toujours un comportement. Moi, je le dis aussi, hein, on est des usagers. Comme je dis, j'emploie souvent la phrase, on est condamné à vivre ensemble. C'est-à-dire les motards, les automobilistes, les camions, les voitures sans permis. Hein, qui n'a pas pesté après une voiture sans permis devant? Oui, eh ben oui, mais voilà, elles ont le droit de circuler, c'est la réglementation et tout. Les piétons, les animaux sur la route, voilà, hein, quand on est motard, ben voilà, moi le soir, je fais de plus en plus attention. Quand je rentre un peu tard le soir, ben, on dirait, ben, c'est bon, il n'y a pas moins de circulation, tu peux rouler. Eh ben non, vous êtes en voiture, vous défoncez le pare-choc, en moto, l'affaire n'est pas la même. Donc voilà, on a des spécificités, voilà, hein, c'est une réalité.
Mais du coup, comment les motards peuvent-ils contribuer à améliorer la sécurité sur les routes, tant pour eux-mêmes que pour les autres usagers de la route?
Alors, sur le premier plan, hein, quand j'ai parlé de l'état des routes, nous, à la FFMC, on a monté une application où on signale les points noirs. Voilà, il y a une application qui est très simple, que les adhérents de la FFMC peuvent télécharger et signaler en direct. Moi, personnellement, j'ai eu une fois, je suis arrivé à un rond-point Alors voilà, c'était en ville, bien sûr, c'était à Montélimar, je suis arrivé à un rond-point, et un camion qui avait semé du gasoil sur le rond-point. J'ai appelé de suite les pompiers. Je suis resté sur place pour voir si des motards arrivaient pour leur signaler le danger et tout. Et honnêtement, en un quart d'heure, les gens étaient sur place, ils ont mis de l'absorbant, ils ont. Voilà. Donc ça c'est une réalité. Après, le discours que je peux avoir pour tout un chacun, ben, amis automobilistes, hein, quand vous faites le plein à la pompe, hein, les voitures gasoil, ben, faites pas le plein à ras-bord. Voilà, parce que ben, vous en mettez sur la route, ben, en moto, on n'a que deux roues, hein, on a forcément ce problème d'équilibre. Voilà, c'est une chose qui est dont il faut être conscient. Voilà. C'est chaque spécificité. Évidemment, quand on n'a jamais fait de moto, c'est des choses auxquelles lequel on n'est pas. Les motards, par exemple, moi j'ai un autre discours avec eux, je leur dis ne suivez pas la voiture qui est trop près devant vous, même quand vous êtes à l'arrêt. Parce que si par hasard la personne derrière, devant doit reculer, elle va reculer, elle ne va peut-être pas vous voir. Seulement le problème, c'est que vous n'avez pas de marche arrière. Quand vous avez une moto de 300 kg, pour la reculer avec les pieds, ce n'est pas évident. La FFMC, elle est beaucoup engagée dans la sécurité. Beaucoup de gens ne le savent pas.
Pouvez-vous partager des exemples de projets ou d'initiatives de sensibilisation menées par la Fédération des motards pour promouvoir la sécurité routière?
Alors, dernièrement, c'est pas vieux, il y a 15 jours, on a fait un relais motard Calmos. Alors on déploie une tente et tout, et puis voilà, les motards s'arrêtent, on boit un café, on discute, on essaye de trucs. On en a fait un sur l'autoroute à Saint-Rambert-d'Albon. Les motards descendent au Bol d'Or, c'est une course qui est connue, c'est une des plus anciennes courses de moto qui existe au monde. Ils descendent au Castellet, à côté de Marseille, enfin au circuit Paul Ricard. Et on les accueille pendant 2 jours, on les a accueillis sur les motards Calmos, avec bien sûr le concours de Vinci, et on les accueille en offrant café, thé, évidemment des boissons sans alcool, bien sûr. On fait un peu de mécanique, on fait voilà, des conseils, etc. Voilà l'action qu'on a envers les motards.
Les motards sont souvent exposés à des risques spécifiques liés aux intempéries. Pouvez-vous discuter des précautions que les motards devraient prendre par temps pluvieux ou venteux, par exemple?
C'est des conseils relativement simples, faire attention sur la route, les feuilles mortes en hiver, au moment de l'automne. Vous avez des feuilles sur la route, c'est humide, c'est glissant. Le gravier qui est répandu quand même généreusement sur les routes, donc adapter sa vitesse, adapter la circulation, modérer sa vitesse quand il pleut, le vent, faire attention, quand il y a du vent, vous pouvez être déséquilibré, on a toujours le problème de l'équilibre en moto, et puis en hiver, tant que se faire éviter de rouler quand il y a moins 10 dehors, parce que plaque de verglas, en voiture vous allez glisser, vous allez faire de la carrosserie, en moto l'affaire va pas être la même, donc c'est s'adapter en fait, tout simplement, c'est une adaptation perpétuelle. La moto, il faut être très vigilant, très à l'écoute et à la vision des autres.
Pouvez-vous partager une expérience personnelle ou une anecdote qui illustre l'importance d'être bien équipé pour les motards?
Il y a quelques temps de ça, je suis arrivé à un rond-point, j'habite au Teil, il y a un rond-point au Teil, et puis il y avait une motarde des forces de l'ordre qui était tombée. Comme quoi ça arrive aux meilleurs, même aux meilleurs, même les gens qui ont... Enfin, je dis les meilleurs, peut-être pas les meilleurs, mais ceux qui ont une bonne pratique, sont des gens qui roulent toute l'année, etc. Il y avait du gasoil sur le rond-point, elle est tombée. Évidemment, elle était correctement équipée, elle s'est relevée, je l'ai un peu aidé à remonter, la moto, etc. Bon, voilà, et puis, il n'y avait pas trop de conséquences côté physique, côté corporel. Voilà, l'équipement, c'est incontournable, c'est une chose qui fait partie. Quand on veut faire de la moto, il faut s'équiper. Il fait 50 degrés dehors, on a le blouson, on a le pantalon, on a les chaussures montantes. Le risque quand on n'a pas des chaussures montantes, c'est les malléoles, les malléoles qui sont très fragiles, quand ça frotte, et puis le goudron, c'est plein de verre, de ferraille, c'est abrasif, l'équipement en moto, en deux roues en général, il est indispensable.
Vous êtes aussi bénévole à la mutuelle des motards. Quand on est motard, à quoi doit-on veiller quand on choisit son assurance?
Alors, quand on choisit une assurance, alors faut savoir déjà que l'assurance est obligatoire. Peu de gens le savent. Les gens pensent qu'avec leur responsabilité civile qu'ils ont, ils sont couverts. Certaines assurances le font, d'autres ne le font pas. Donc le premier conseil que j'ai à donner en matière d'assurance, c'est de voir son contrat de responsabilité civile qu'on a tous. Ça, c'est une chose, y compris pour les VAE, parce qu'on parle des trottinettes, mais les VAE, les vélos à assistance électrique, il y a certaines assurances qui les couvrent, il y a d'autres assurances qui ne les couvrent pas. Après, la réglementation, elle est consultable par tout à chacun. Vous allez sur Internet, vous regardez réglementation EDPM, c'est mis à jour régulièrement. Vous connaissez la phrase, nul n'est censé ignorer la loi. Maintenant, il faut aussi s'intéresser un peu.
Merci Monsieur l'évêque. En conclusion, une petite question pour tout le monde. Quel message aimeriez-vous transmettre au public en ce qui concerne la sécurité routière?
Que chacun est maître de sa destinée et doit en être acteur.
Moi je dirais, on arrive sur les... Je vais revenir sur la visibilité, c'est quelque chose d'important. On arrive sur des périodes là où les jours raccourcissent. Donc je relance un appel, parce que ça ne coûte pas très cher, de mettre un éclairage sur un vélo. Donc que tout le monde fasse en sorte de bien déjà se rendre visible. Et une deuxième chose aussi très rapidement, la réglementation, elle impose un minimum de choses. Après, ça n'interdit pas les gens à aller au-delà de la réglementation. Notamment, on a parlé plusieurs fois du port du casque, que ce soit en vélo, que ce soit sur des ZEPM. Bien sûr, c'est quelque chose qui est recommandé et je dirais même qui est indispensable.
Oui, moi pour la mutuelle et puis pour la FFMC, je voudrais dire que surtout insister sur le côté partage de la route, le côté voilà, on vit en société. Alors il faut savoir que quand arrive un accident, ben, déjà les personnes sont esquintées. Moi quand j'ai un motard qui a un accident, la première chose que je lui demande, c'est ce qu'il a, etc. Parce que ça me désole toujours d'apprendre que quelqu'un, voilà. Ça c'est une chose. Donc c'est penser à soi, mais aussi penser aux autres. Hein, ça fait des drames familiaux, ça fait, voilà, c'est, on vit en société, on doit respecter les autres, on doit, voilà, on n'est pas seul sur la route. Moi, je fais des entretiens de prévention, hein, dans le cadre de la mutuelle des motards, ben, les entretiens de prévention, j'ai cette phrase que vraiment je n'accepte plus quand ils se font, enfin, quand ils se font interpeller par les forces de l'ordre, c'est j'ai joué, j'ai perdu. Et moi, j'ai cette réponse, rouler sur la route, se déplacer, ça n'est pas un jeu, c'est un acte citoyen.
Merci beaucoup à vous trois pour cette discussion informative sur la sécurité routière. Nous espérons que ces conseils seront utiles pour nos auditeurs.
Tous en mode bonne conduite. Soyez prudents sur la route. Les accidents de la route tuent 1,35 million de personnes dans le monde chaque année, soit un mort toutes les 21 secondes. Du 1er octobre au 1er novembre, retrouvez des interviews, reportages, messages d'information et de prévention sur InfoRC. Tapez www.inforc.fr pour retrouver la web radio. 88.6 et 97.2 pour retrouver les fréquences d'InfoRC. Tous en mode bonne conduite, une action soutenue par Point S, la carrosserie Vernet et la préfecture de l'Ardèche.